ce devait être la mer et la nuit.
Mais le sol était une
l'infinie désolation des morts et pour son livre et comme un jeune visage. Il avait encore la tête à la fille dans le ciel et par la fatigue des souhaits.
La salle de lecture.
Je suis Rémi Guton et je vais avoir le plaisir de lire Le réveil de Laurent Gounel. Certains documents n'ont pu être retranscrits en audio. Même si cela ne change en rien la compréhension de l'ouvrage, vous pourrez les retrouver en format PDF dans votre bibliothèque. À nos enfants, en souhaitant qu'ils vivent libres. La population, en général, ne sait pas ce qui est en train de se passer. Et elle ne sait même pas qu'elle ne le sait pas. Noam Chomsky. Quelques mots sur ce livre. J'ai trouvé mon inspiration pour écrire l'histoire que vous allez lire en observant de près la situation que nous vivons tous depuis que le Covid-19 s'est répandu sur Terre. Ce roman met en scène mes clés de décodage d'un certain nombre d'événements qui, selon moi, sont tous sauf anodins. Afin de lever toute ambiguïté, je tiens à préciser d'entrée de jeu qu'il ne vise pas les vaccins anti-Covid. Je ne suis pas médecin, encore moins épidémiologiste, et n'ai donc aucune compétence pour émettre une opinion sur ces médicaments. Ce n'est tout simplement pas le sujet du livre. J'ai concentré mes analyses sur tout le reste. Enfin, toutes les références historiques sont véridiques, ainsi que les théories économiques et études psychosociologiques mentionnées. Vous trouverez mes sources à la fin du livre. Laurent Gounel. Chapitre 1. Tout commença le jour où un célèbre médecin, scientifique de renom et personnalité prisée des médias, déclara, preuve à l'appui, que toute mort avant 120 ans était une mort prématurée. C'était un matin d'automne, et dans les allées venteuses des parcs de la ville, les feuilles des arbres mouraient par millions, voletant désespérément quelques instants avant de s'échouer à terre où d'inconscients promeneurs les fouleraient sans le moindre respect. L'information se propagea comme une onde de choc dans la population. Elle suscita d'abord un grand espoir, chacun se prenant à rêver de pouvoir jouir d'une existence ainsi prolongée. La vie appelle la vie, elle est irrésistible, et en nous réside toujours le désir plus ou moins conscient de l'immortalité. Puis, assez vite, chacun dut se rendre à l'évidence. Même si nos gènes nous offraient cette longévité potentielle, les accidents de parcours et la maladie se chargeaient de nous la confisquer. Et l'espérance de vie réellement constatée dans le pays ne dépassait guère les 80 ans. Un peu plus pour les femmes, un peu moins pour les hommes. Il en resta alors le goût amer de l'impuissance, ainsi qu'un profond sentiment d'injustice. Chacun se demandait pourquoi on le privait de près de 40 ans d'existence supplémentaire. Petit à petit, on commença à percevoir une telle longévité comme un droit, comme un dû. Le gouvernement s'empara de la question. Le président prit la parole à la télévision et déclara qu'il allait s'attaquer de front au problème. Il créa ce jour un conseil de défense réunissant le président, le premier ministre, le ministre de la Santé, le ministre de la Défense, le ministre de l'Intérieur, ainsi que des acteurs des grandes institutions publiques du domaine de la santé. Le conseil de défense se réunirait aussi souvent que nécessaire, sans doute chaque semaine, afin d'étudier la conjoncture et de prendre les décisions et les mesures qui s'imposeraient pour faire face à cette situation insupportable. Très vite, les journalistes essayèrent de savoir ce qui se disait lors de ces réunions. Comme ils en avaient l'habitude chaque semaine à l'issue du conseil des ministres, chacun avait ses entrées auprès de tel ou tel ministre qui, off record, se faisait toujours un plaisir de laisser fuiter quelques informations, afin de s'attirer les bonnes grâces du journaliste qui saurait lui renvoyer l'ascenseur le jour venu. Mais là, les journalistes amassés à la porte du palais restèrent sur leur faim. Les membres du conseil sortirent un à un, l'air grave, la tête droite, le regard comme rivé sur un point fixe au loin, et ils demeurèrent parfaitement silencieux, totalement muets. Du jamais vu. Impossible d'obtenir la moindre confidence, la moindre miette d'information. Rien. Pourquoi ? Parce que c'était un conseil de défense, comme l'avait décidé le président, et que chaque membre était dès lors tenu au secret le plus absolu. La moindre fuite lui coûterait 7 ans d'emprisonnement. Mais pourquoi un conseil de défense sur un tel sujet ? Se demanda alors un journaliste.